Bon après-midi, frères et sœurs. Nous ouvrons nos Bibles et nous allons lire trois textes sur lesquels nous allons nous focaliser durant ce moment de méditation. Le premier texte est à Juges, chapitre 16. Nous allons lire du 18e au 30e verset. Juges, chapitre 16, du 18e au 30e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Delila voya qui lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elles l'endormirent sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les doter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'attirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tourna la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient: notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant: notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent: qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: « Que je meure avec les Philistins. » Et il se pâcha fortement. Et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Deuxième texte, Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 6e verset et nous allons sauter et lire du 12e au 16e verset. Nous lisons ce qui suit au nom de Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. 12 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que c'est là le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui a saigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous accordes d'écouter ta parole. Laisse que ta parole puisse avoir un impact sur la vie de mon frère. Parce que ta parole est la vérité et elle sanctifie. Que nous disparaissions et que tu croisses. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je dis merci au pasteur de la paroisse et son équipe qui m'ont choisi cet après-midi pour diriger cette méditation. Il nous a été demandé de diriger la méditation et il y a pour thème, pour sous-thème si vous voulez, maintenir le feu du réveil spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons commencé ces deux semaines de prière et d'enseignement, l'homme de Dieu avait souligné le lundi antérieur que la repentance réelle suivie de la consécration totale à Dieu est à la base du réveil spirituel. Ce réveil qui est d'abord personnel et qui, dans la suite, affecte toute une communauté. Quand nous parcourons la Bible de la Genèse en Apocalypse, nous découvrons une réalité qui se répète régulièrement, qui se répète couramment, c'est que plusieurs personnes, comme plusieurs communautés, qui ont été réveillées spirituellement et qui ont accepté de servir Dieu efficacement et qui avaient palpé la main de Dieu, à un moment donné de leur vie, ils tombent, ils abandonnent l'élan spirituel voulu par Dieu dans leur vie. Ils abandonnent le chemin du réveil spirituel et on s'est toujours posé la question de savoir pourquoi pareille situation arrive. Par ailleurs, nous pouvons trouver d'autres personnes qui, eux, ont été à mesure de garder l'élan spirituel jusqu'à la fin de leur mort, mais après leur mort, on constate que la valeur spirituelle qu'ils avaient n'a pas été léguée à ceux qui viennent après eux. C'est pour cette raison que le pasteur et son équipe ont été inspirés pour nous proposer ce sujet afin que nous puissions comprendre ce que nous pouvons faire pour maintenir le réveil spirituel que Dieu a déjà commencé en vous à partir du début de ce séminaire. Je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui n'avaient jamais imaginé qu'ils pouvaient s'engager à un programme de prière de 14 jours. Il y a plusieurs parmi nous qui ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un pouvait passer toute une journée sans manger. Mais avec le Seigneur, plusieurs ont réussi. C'est déjà un signe qui annonce un réveil spirituel dans la vie de quelqu'un, mais aussi dans cette église. C'est pour cette raison que ce soir, nous voulons examiner les raisons qui peuvent freiner le réveil spirituel que le Seigneur, que le Saint-Esprit vient de commencer dans votre vie personnelle et dans la vie de cette église. Et nous voulons faire la différence. Nous ne voulons pas tomber dans les erreurs qu'a connues nos prédécesseurs. Nous voulons faire la différence afin que les valeurs spirituelles que nous acquérons dans notre expérience avec le Seigneur, cet élan spirituel qui commence à nous emballer ne puisse pas connaître une rupture dans nos vies, mais aussi une rupture dans ceux qui viendront après nous. C'est pour cette raison que nous allons examiner quelques causes qu'il faut que le réveil spirituel connaisse des ruptures ou que des personnes qui ont été à un moment donné réveillées spirituellement puissent encore descendre et demeurer endormies. La première cause, nous l'avons trouvée dans notre texte d'Apocalypse au chapitre 2, du 2e au 4e verset. Permettez-moi de relire le texte. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu y as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne veux pas entrer en profondeur dans la vie de cette église d'Éphèse, moins encore la vie de l'église de Pergame. Je sais que Dieu est en train de préparer un autre serviteur qui nous en parlera à long et à large. Mais je vais seulement souligner quelques réalités que nous tirons de la vie ou du comportement qu'avaient affiché ces églises. La première cause qui affecte le réveil spirituel, c'est l'abandon du premier amour. Vous constatez Dieu en train de dire à l'église d'Éphèse que ce qu'il a contre elle, c'était ce qu'il avait contre elle, c'est que l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. Quand nous naissons de nouveau, nous acquérons la grâce de Dieu de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a pour mission de nous diriger, le Saint-Esprit qui a une grande mission dans la vie de tout croyant. Et nous avons constaté que quand nous naissons de nouveau, avec la joie d'appartenir au Seigneur, avec la joie de la nouvelle naissance, il y a des manifestations palpables qui prouvent que nous aimons Dieu. D'une manière personnelle, ou dans la vie de plusieurs frères, on constate le désir ardent d'écouter la parole de Dieu, le désir ardent de méditer la parole de Dieu et surtout d'y obéir. c'est parmi les manifestations qui sont catégoriques chez tous les enfants de Dieu, chez toutes les personnes qui passent par l'expérience de la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, en tout cas, le Saint-Esprit les engage dans le désir d'écouter et de méditer la parole de Dieu, mais surtout d'y obéir. Un autre élément qui manifeste l'amour envers notre Dieu, c'est le désir ardent de prier et surtout celui de louer et d'adorer. Je peux me limiter à ces deux manifestations par lesquelles nous prouvons notre amour avec Dieu. Mais il a été constaté qu'à un moment donné de la vie, on peut commencer, ce moment de méditation commence à diminuer, on commence à perdre même ce moment de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que quand vous commencez à perdre de bonnes choses que le Saint-Esprit a lui-même inspirées dans votre vie, et cela d'une manière souveraine, quand vous commencez à les abandonner, à perdre du goût pour ces choses, vous perdez votre amour avec Dieu. Et par conséquent, vous vous engagez à un chemin qui va rompre votre élan spirituel, votre réveil spirituel, voulais-je dire. C'est pourquoi, frères, chacun de nous doit accepter de ne pas abandonner les bonnes habitudes que le Seigneur lui a inspirées. Parce que la méditation et le désir ardent d'obéir, d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu nous procurent plus de bonheur. Le désir ardent de prier, de louer et d'adorer Dieu nous approche de la gloire de Dieu et nous assure notre connexion avec Dieu. Il est étonnant de constater que plusieurs frères, après avoir expérimenté un moment de la spirituelle, à un moment donné, ils peuvent l'abandonner et céder à des manipulations, céder à des activités qui peuvent juste développer l'âme sans développer l'esprit de l'homme. Frères, il ne faut pas tomber dans l'erreur de changer vos moments de prière avec le moment de l'Internet, de changer vos moments de méditation avec le moment de discussions inutiles. Ces discussions inutiles ne peuvent pas vous aider à croître spirituellement. Après tout, sur cette terre, nous ne partirons pas avec les informations que nous avons, mais nous partirons avec la qualité de la foi que nous aurons affichée, la foi qui émane de la, disons, la foi qui émane de la confiance à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que vous devez veiller sur vous-même, vous devez veiller sur votre foi. Et cela ne sera pas sans gain. Laissez-moi vous rappeler une phrase qui m'a toujours interpellé chaque fois que je me rappelle de cette phrase. Le concepteur de la télévision avait dit ce qui suit, je cite, « Désormais, il n'y aura plus ni chrétiens ni musulmans, mais tous adoreront la télévision. » Fin de citation. Par cette phrase, il voulait exprimer la certitude qu'il venait d'introduire dans le monde quelque chose qui va déséquilibrer le programme même des religieux. Et il est étonnant de constater que plusieurs d'entre nous peuvent même abandonner ou rejeter la prière à un moment ultérieur seulement à cause d'une émission à la télévision. Ça ne vous est jamais arrivé? Ça ne vous est jamais arrivé? Si cela vous est déjà arrivé, il faut vous repentir. La deuxième cause de la rupture de l'élan de réveil spirituel, nous la trouvons Toujours en Apocalypse chapitre 2, cette fois-là, à partir du 12e verset au verset 14. Je peux seulement lire le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a saigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. La deuxième cause qui peut rompre votre lien spirituel, le lien de réveil spirituel, c'est l'attachement aux faux enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan était spécialiste à tordre la parole de Dieu. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber facilement dans une interprétation erronée de la parole de Dieu. Et quand vous êtes tombé dans cette interprétation, automatiquement, vous allez à côté de ce que Dieu attend de vous. Essayez de vous imaginer quand Jésus a été tenté par Satan. Il était en train de terminer son programme de jeûne de 40 jours. Une parenthèse. Ne pensez jamais que quand vous êtes à prière, vous ne pouvez pas être tenté. Même quand vous êtes à jeûne, vous pouvez être tenté. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez penser que, comme je suis à jeûne, cette fois-ci ce n'est pas une tentation, c'est une inspiration. Et vous tombez dans l'erreur. Jésus a été tenté quand il était à jeûne. Il était en train de terminer le jeûne de 40 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan est venu vers Jésus avec le texte de la Bible. Et si Jésus n'était pas capable de comprendre que ce n'était pas le moment de mettre en pratique ces paroles-là, quelqu'un penserait que, cette fois-ci, c'est une inspiration, n'est-ce pas? Satan peut vous attaquer. Il peut vous amener à tordre le message de la vérité. Et quand vous l'avez tordu, ou quand vous vous êtes laissé entraîner par quelqu'un qui a une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, vous courez le risque d'abandonner l'élan spirituel que Dieu attend de vous, le réveil spirituel, et par conséquent, vous pouvez même tomber dans une situation plus grave qui peut même vous amener à abandonner la foi. C'est pour cette raison qu'il vous sera nécessaire d'examiner toute inspiration, toute interprétation de la parole de Dieu, surtout dans des moments intenses de prière, mais aussi quand vous suivez des prédicateurs que vous ne connaissez pas. Il est vrai qu'à un moment donné de la vie, nous voulons palper la plénitude de la gloire de Dieu. Nous voulons palper la puissance de Dieu. Et quand nous avons en nous ce désir, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans les mains de ceux qui ont mal interprété la parole de Dieu et ils peuvent nous entraîner. L'église de Pergame a eu quelque chose contre Dieu, celle de s'attacher aux faux enseignements. Tu dois veiller sur ton enseignement. Tu dois veiller sur les gens que tu as l'habitude d'écouter. Est-ce qu'ils sont véridiques? Je me répète, avant de s'attacher à une particularité dans la Bible, lisez aussi d'autres passages pour bien comprendre et au besoin partager avec d'autres frères, ses sœurs. Cela peut être un garde-fou pour vous qui peut vous empêcher de tomber dans l'erreur, de suivre ou de vous laisser diriger par une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Quand je dis associer notre frère, j'ai un soubassement biblique. Si on pouvait nous poser la question de savoir quel est l'évangéliste imminent du Nouveau Testament, nous allons répondre que c'est Paul. Parce que Paul, par son expérience, il nous a inspiré et il a réalisé beaucoup de choses. Mais quelque chose qui m'a étonné dans sa vie, là nous sommes à Galates, après 14 ans, Paul lui-même l'a dit, il est monté à Jérusalem pour aller trouver ceux qui étaient le plus considérés, les apôtres qui ont passé la vie à Jésus-Christ. Et il est parti les rencontrer avec le souci de voir son message censuré. Paul ne voulait pas évoluer sans avoir la certitude qu'il était en train d'enseigner ce que réellement le Seigneur avait enseigné. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons imiter Paul à ce point et d'accepter que même nos messages, nos interventions puissent chaque fois être censurées. Je m'étonne de nous baptistes, mais aussi des pentecôtistes. Le plus souvent quand nous allons voir le pasteur, c'est pour lui exposer des problèmes, c'est pour lui demander de prier pour nous, c'est pour lui demander. Mais rares sont les gens qui partent voir le pasteur pour essayer d'échanger avec lui la connaissance autour des versets bibliques. Nous devons commencer à apprendre, à consulter le plus considéré, parce qu'ils nous aideront. Amen. Oui, quand vous êtes assuré que vous êtes assis dans la bonne parole de Dieu, je suis convaincu que plusieurs miracles peuvent s'opérer dans votre vie, même ça qui est une quelconque prière. Dieu a créé par sa parole. À partir du moment où vous acceptez de demeurer dans la bonne parole de Dieu, cette même parole peut produire à vous des miracles. C'est ce que nous lisons. Je n'ai pas prévu le texte, mais c'est ce que nous lisons en Apocalypse au sujet de l'église de Philadelphie. Dieu a dit, parce que vous vous êtes attachés à ma parole, je vais ouvrir aussi une porte devant vous, une porte que quelqu'un ne peut plus fermer. Frère, vous avez déjà fait beaucoup de mouvements avec votre sujet de prière. Vous avez même quitté Gomaville pour aller dans une chambre quelque part. Un conseil gratuit que je vous fais, attachez-vous seulement à la parole de Dieu et vous allez voir que Dieu va ouvrir des portes dans votre vie. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, tout ce que vous demanderez, le Père vous l'accordera. Une parenthèse que j'ouvre. Après avoir médité sur ce passage, je me suis dit, je dois vous encourager, vous qui êtes membre de la CBECA, à y rester. Pourquoi? La CBECA peut présenter des failles d'ordre disciplinaire ou peut-être dans la gestion de la communauté. Mais pour ce qui est de la doctrine, la CBECA est sur le droit chemin. Quelqu'un qui a cru au Seigneur et qui a décidé de travailler pour le Seigneur dans la CBECA en train d'être affermi, s'il n'est pas découragé par certaines disciplines ou certains comportements des gens qui connaissent des problèmes, sincèrement, s'il reste attaché seulement à la doctrine de la CBECA, il ne le regrettera pas. Essayez de côtoyer certains frères d'autres communautés, échangez avec eux au sujet de la parole de Dieu. Vous constaterez que vous êtes en avance et vous constaterez que vous êtes dans les bons. Frères ou sœurs, si ce n'est pas pour une raison que le Seigneur peut-être lui-même peut créer, ne décidez jamais d'abandonner la CBK. Je referme la parenthèse. La troisième cause qui peut nuire à l'élan spirituel, qui est le réveil spirituel, nous la trouvons à Juges, chapitre 16, le verset 18. Juges, chapitre 16, le verset 18. C'est un texte que nous avons déjà lu, permettez-moi d'aller vite. Samson avait une instruction formelle de ne pas raser ses cheveux. Et le secret était partagé entre Samson, Dieu et ses parents. Tout le monde n'était pas obligé de connaître ce secret. Mais à un moment donné, Samson s'était donné le courage ou s'était laissé entraîner par Delila et il a fini par donner son secret à Delila. Delila a rasé les cheveux de Samson. Vous savez ce qui est arrivé à Samson. Il est vrai que nous pouvons discuter longuement sur ce texte, mais laissez-moi vous dire une chose. Quand nous entrons en relation avec Dieu, dans notre communion avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose que le Saint-Esprit peut nous inspirer d'une manière particulière. Évidemment, cette chose ne peut pas être à l'encontre de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Une fois le Saint-Esprit vous a inspiré quelque chose, si vous n'acceptez pas de vous conformer à cette chose, notez que vous avez péché. Les autres hommes étaient autorisés de se coiffer. Mais pour Samson, ce n'était pas le cas. Il a livré secret et vous connaissez ce qui lui est arrivé. Quand nous voulons parler du péché ici, nous ne voulons pas seulement parler de ce comportement qui porte atteinte à la morale, mais nous voulons surtout parler de ces petites choses qui, étant déjà nées de nouveau, étant sur le chemin du réveil spirituel, vous pouvez les négliger. Et quand vous les avez négligés, vous vous rendrez compte qu'à la fin de l'histoire, vous serez le meilleur perdant. Le péché, comme défini dans la Bible, le péché est toute désobéissance à la loi ou à la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu vous a parlé, que ce soit d'une manière particulière, que ce soit d'une manière collective, si vous n'obéissez pas, vous avez déjà péché. Et ce péché va rompre votre connexion avec Dieu. Une fois la connexion avec le Saint-Esprit qui n'est plus approfondie, une fois ne plus approfondie, automatiquement, vous allez perdre l'élan spirituel que le Seigneur attend de vous. C'est pour cette raison que vous devez faire attention. Vous devez faire attention dans votre vie. Il y a des serviteurs qui nous inspirent dans la Bible, mais qui ont perdu de grands privilèges, tout simplement parce qu'ils avaient commis des erreurs que nous, aujourd'hui, nous pouvons considérer comme petites, alors que, à leur époque, ces erreurs leur avaient coûté beaucoup de choses. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, qui avait commis une erreur, je ne veux pas répéter l'erreur, mais vous vous rappellerez que, malgré l'erreur, l'eau avait jailli. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas comprendre que Moïse était déjà en situation difficile avec son Dieu. Finalement, Moïse n'est plus arrivé. Moïse n'est plus arrivé. Moïse n'avait pas pris la femme de son voisin. Moïse n'avait pas tué un innocent. Moïse n'avait pas détourné l'argent de l'église. Il a seulement désobéi à une inspiration. Et à cause de cette désobéissance, il a été aussi candidat il a été assimilé à ce qui ne devait plus piétiner dans la terre sainte. À parler du péché, Dieu m'a rappelé, disons en méditant sur ce message, au point du péché, Dieu m'a rappelé une chose, une histoire, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. C'est l'histoire où certains disciples ont manifesté leur infidélité à Dieu, notamment Ananias et son épouse Saphira. Vous connaissez qu'ils avaient donné un vœu, ils avaient fait un vœu à l'Éternel. Personne ne leur avait demandé de souscrire. Ils avaient souscrit volontairement. Mais curieusement, ils n'ont pas voulu honorer leur souscription. Ils n'ont pas voulu honorer leur vœu. Et à cause de ne pas honorer le vœu, Dieu les avait punis de mort. Ils ont été victimes d'une peine capitale. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois où quand nous sommes chrétiens, quand nous considérons la grandeur de la grâce de Dieu, nous considérons, nous pensons avoir raison de faire du n'importe quoi dans l'église de Dieu. Combien parmi nous ont déjà fait des vœux qu'ils n'ont pas honorés? Si je peux seulement considérer l'année que nous avons terminée, combien ont souscrit? Elles n'ont pas honoré leur souscription. Essayons de nous poser la question. Si Dieu choisissait d'agir comme il avait agi à l'époque d'Ananias et de sa femme, à combien de morts allons-nous assister dans cette paroisse? Regarde ton voisin et pose-lui la question de savoir s'il serait encore en vie si Dieu continuait à travailler comme à l'époque d'Ananias. Est-ce que tu serais encore en vie? Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a peut-être béni, mais tu as mal géré le revenu. Il est vrai qu'il y a certains qui ont eu des difficultés et qui ont besoin d'une prière spéciale pour ça. Mais si toi tu as mal géré le revenu que Dieu t'a accordé et à cause de sa mégestion, à cause de cette dilapidation, tu n'as pas honoré tes vœux à l'église. La Bible te rappelle aujourd'hui, tu dois te repentir. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu est souverain. Il peut ne pas te punir. La même peine qu'avait subie Ananias et son épouse, mais d'une manière ou d'une autre, tu peux être puni. Il y a plusieurs frères, nous les avons déjà rencontrés. Ils sont venus nous raconter que ça ne marchait pas dans leur business, ça ne marchait pas dans leur famille. Après plusieurs entretiens, nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient à la base des problèmes dans leurs entreprises, dans leur famille. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à honorer Dieu dans nos vœux. Ce n'est pas que je vais vous terrifier et vous demander de ne plus faire des vœux, mais je veux plutôt que chacun de nous, quand il fait un vœu, qu'il se décide aussi d'honorer ses vœux. Parce qu'à les honorer, vous serez bénis par Dieu. Amen. Frères, vous devez accepter d'abandonner le péché sous toutes ses formes. Parce que quand vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez ne plus continuer sur la voie que Dieu attend de vous. Comment éviter le péché pour conserver le réveil spirituel? Nous sommes à Juges, chapitre 16, le texte que nous avons lu au verset 19. Vous constaterez que quand Samson a commencé avant de donner son secret à Delila, il s'était laissé dorloter par la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par erreur que la parole de Dieu à 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 nous dit clairement que nous devons fuir. Non. Nous dit impérativement que nous devons fuir devant le péché. Parce que le texte conjugué est fuyez, n'est-ce pas? Un impératif. Devant le péché, il ne faut jamais vous considérer comme étant un surhomme. Il ne faut jamais vous considérer comme étant plus spirituel que les autres. La seule solution pour ne pas tomber dans le péché, surtout l'impudicité, c'est la fuite. Amen. Samson s'était laissé dorloter. Et à cause de cela, il a livré son secret. Et après avoir livré son secret, la Bible dit que Dieu l'avait abandonné à tel enseigne que Samson avait subi les tortures. Pourquoi est-ce que vous voulez jouer avec le péché? Il y a des frères, étant réveillés spirituellement, ils choisissent toujours de côtoyer le milieu le plus douteux, le milieu le plus problématique. Frères, ces milieux, un jour, ils peuvent vous surprendre. Et vous pouvez tomber dans l'erreur de Samson. C'est parce que mon temps est fini, j'allais vous faire une histoire d'une fille que nous avions rencontrée quand nous étions en train d'évangéliser. Elle était en train de pleurnicher parce que, à force de côtoyer un mauvais milieu, elle avait été violée. Elle avait été violée. Et venait nous demander la question de savoir si elle était encore sauvée ou s'il avait perdu son salut. Aidez-moi à répondre à cette question. Nous devons apprendre à fuir. Des fois, nous faisons le contraire de ce que nous dit la parole de Dieu. Je sais que plusieurs parmi nous, quand ils considèrent les ennemis de la foi, ils placent Satan à la première position et la chair à la deuxième position. Alors que c'est juste le contraire. Pour Satan, la Bible dit, résistez au diable et il vous fuira. Mais pour le péché, surtout l'adultère, la Bible dit, fuyez. Entre la situation où vous devez fuir et la situation où vous devez résister, laquelle est plus délicate? La Bible sait que le péché agit dans la chair. Et quand il agit dans la chair, il est très facile de pouvoir vous entraîner. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, mais fuyez le péché. Nous devons apprendre à fuir dans toutes les situations. C'est dans cette optique que Jésus a dit à Matthieu, chapitre 5, le verset 30, que si votre main vous pousse à pécher, en tout cas, vous devez couper cette main. Acceptez de devenir infirme et gagner le royaume des cieux plutôt que de perdre le royaume des cieux avec toute sa corpulence. C'était une manière de nous dire que nous avons un prix à payer quand nous devons fuir. Amen. Arriver à couper la main, arriver à arracher un œil, ce n'est pas facile, mais la Bible nous encourage à le faire parce que nous devons fuir le péché pour glorifier le Seigneur. À part la fuite au péché, nous devons apprendre, là nous sommes dans le paragraphe, éviter le péché. Nous devons apprendre à compter seulement sur Dieu. Quand nous jetons nos yeux dans les livres, les textes que nous avons lus à Juges chapitre 16, verset 20, nous constatons que Samson avait déjà placé sa confiance dans ses expériences. C'est pourquoi il dit, quand on lui dit, Samson, les Philistins sont là, il dit, ah, je vais encore me tirer d'affaire comme les autres fois. Frère, notre Dieu n'est pas obligé d'agir de la même manière tous les jours. À partir du moment où vous voulez cataloguer Dieu et penser, après avoir travaillé comme ça, il va travailler comme ça, il va travailler comme ça, il y a déjà une erreur qui pointe à votre horizon. Dieu n'est pas obligé de maintenir le même mode opératoire. C'est pourquoi vous trouvez que Samson a connu un problème. Quand nous lisons la Bible, surtout les grands hommes de l'histoire qui nous ont marqués, à l'instar d'Esther, Daniel, Esdras et les autres, nous pouvons nous rendre compte qu'ils étaient tous dans la même situation de déportation. Mais la manière dont Dieu avait travaillé avec chacun d'eux était vraiment différente, n'est-ce pas? Dieu n'a pas travaillé avec Esther de la même manière qu'il a travaillé avec Daniel. Dieu n'a pas travaillé avec Daniel de la même manière qu'il avait travaillé avec Esdras. Mais dans toutes les manières de travailler avec ces différentes personnes, Dieu était toujours glorifié et nous nous tirons toujours des bénédictions. Ça veut dire quoi? Même si vous pouvez être passé dans une situation donnée, ne pensez pas que quand cette situation vous arrive, vous allez reprendre la même formule. Non, Dieu peut vous donner une nouvelle formule qui sera aussi à sa gloire. D'ailleurs, c'est ce qui a été à la base du péché de Moïse. Dans la première expérience, Dieu avait demandé à Moïse de frapper sur le rocher. Mais dans la deuxième expérience, il lui avait seulement demandé de parler au rocher. Alors, au lieu de parler au rocher, Moïse a pensé qu'il fallait qu'il revienne à la première expérience. Ça a été un péché. Ça a été un péché. Apprenons à mettre notre Dieu à sa place. Il est celui qui a le monopole de la création. Et à toutes circonstances, il peut nous créer une nouveauté qui le glorifie, mais aussi qui nous édifie dans notre manière de travailler avec lui. Nous voulons donc dire ce qui suit. Quelles que soient nos forces ou nos faiblesses du passé, nous sommes appelés à compter seulement sur Dieu, celui qui renouvelle sa miséricorde chaque matin. Parce que la Bible dit à Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle et ils ne se lassent point à courant. » Ça veut dire quoi? Si vous voulez maintenir votre élan de réveil spirituel, si chaque matin vous renouvelez votre confiance à Dieu, si vous placez votre confiance à Dieu chaque matin, vous serez en train de renouveler votre force. Et vous allez chaque fois voler comme l'aigle, l'oiseau qui vole le plus loin, hein, le plus loin dans les airs possible. Vous serez en train de courir sans jamais se fatiguer et vous marcherez sans se lasser. Le secret c'est quoi? Placez toujours sa confiance à l'Éternel. Ne placez jamais votre confiance dans vos expériences. Moins encore, ne vous laissez jamais intimider par vos faiblesses du passé. Vous pouvez faire le meilleur. Vous pouvez faire le meilleur à l'avenir. Il faut que je souligne ce que je viens de dire. Plusieurs personnes ont déjà échoué parce qu'ils se sont limités à leur victoire, à leur réussite. Tu as réussi, tu as eu ton diplôme d'État avec de bons points. Tu as été le seul à distinguer. Quand on te demande d'aller au supérieur, tu dis non, j'irai quand je voudrais. Parce que moi, je suis suffisamment intelligent, même au supérieur, je n'échouerai pas. Ceux qui ont eu des minimes points vous dévassent au supérieur. Vous terminez la première année, la seconde. Après 5 ans, vous vous rendrez compte que vous n'allez plus étudier. Alors que la possibilité était. Tout simplement parce que vous vous êtes trop réjoui de votre réussite et vous avez pensé que votre réussite suffisait. Retenez ce qui suit. Les réussites ou les bons résultats que nous réalisons aujourd'hui nous préparent à un nouveau défi à réaliser ou à relever le jour à venir. Aujourd'hui, vous avez réussi. Préparez-vous encore à une réussite demain. C'est pour cette raison que l'homme de Dieu, Paul, dit à Corinthiens que je cours pour aller récupérer ce qui m'a été réservé. Paul ne voulait pas s'attarder sur ce qui est déjà passé. Il ne voulait même pas regarder ce qui est derrière. Sa préoccupation, c'était de poursuivre sa course pour aller récupérer ce qui lui était réservé après la course. Si telle peut être la motivation de chacun d'entre nous, je crois qu'il ne va pas perdre l'élan spirituel que le Seigneur est en train de nous donner. Concluons en disant ce qui suit. Frères, nous savons que le Seigneur a déjà commencé quelque chose dans votre vie et dans la vie de cette Église. Notre souci, mais aussi la volonté de Dieu, c'est que nous puissions conserver ce réveil spirituel. Et si nous le conservons à la différence de ceux qui nous ont précédés, la Bible dit que nous serons des colonnes dans le temple du Seigneur et nos noms ne seront jamais effacés du livre de vie. Nous serons des sources de bénédiction à plusieurs personnes. C'est pourquoi ma prière de ce soir, c'est que le Seigneur te garde fidèle à lui, c'est que le Seigneur garde son Église fidèle à lui pour que tous nous soyons réveillés spirituellement jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Tu vas toi-même prier pour toi. Tu as besoin de maintenir le réveil spirituel que le Saint-Esprit est en train de t'accorder. Il est vrai que tu as opté pour ce programme de prière parce qu'il a été programmé par l'Église. Je veux que prochainement, vous ne puissiez plus attendre le programme de l'Église, mais que ça soit une inspiration que le Seigneur pourra vous accorder, même personnellement. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, je vais être fidèle à toi jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas dire, Seigneur, je vais être réveillé jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas dire, Seigneur, je vais mener une vie qui te glorifiera toute la vie. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Seigneur, tu nous as accordé à écouter ta parole. Tu viens de nous rappeler que nous devons maintenir cet élan spirituel que ton Saint-Esprit est en train de nous inspirer d'une manière personnelle, mais aussi sur le plan de toute l'Église. Je te demande, ô Père, de bénir mon frère, de bénir ma sœur, afin qu'il s'engage à obéir à ta parole, à obéir à toi toute sa vie. Prends ce frère, prends cette sœur. Seigneur, nous acceptons que tu puisses prendre le corps de chacun d'entre nous, que tu puisses prendre l'âme de chacun d'entre nous et que tu règnes sur le cœur de chacun d'entre nous. C'est entre tes mains que nous nous abandonnons. Nous te le demandons parce que nous croyons à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.